la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Bien, j'ai le grand plaisir de revoir Jean-Marc Prévost. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Donc vous n'êtes plus à Nîmes, mais vous aviez préparé l'exposition de Lucas Arruda et Evans Machado. Donc vous venez les représenter. Le vernissage est le 30 avril.
Non, le 29.
Le 29 avril, pardon. Et ce sont des expositions qui durent jusqu'au 5 octobre. Donc, vous revenez avec grand plaisir, vous rencontrez l'artiste, hein, puisque le second est décédé. Alors, vous revenez avec plaisir.
Ben, je reviens avec plaisir dans le musée, oui, dans les murs du musée. Ça fait pas si longtemps que je suis partie, mais j'avais travaillé avec les artistes, donc c'est un peu normal que je les accompagne.
Bien sûr.
Ça fait partie de notre métier.
Oui. Et puis, vous préparez donc ce vernissage. On est quelques jours avant, ça y est, tout est prêt, tout est...
Oui, non, ça a bien avancé. C'est des grandes expos qui nous ont demandé beaucoup d'énergie à l'équipe parce qu'il y a beaucoup de prêts, des œuvres qui viennent du Brésil, mais qui viennent de beaucoup d'endroits.
Ouais.
Et c'était assez compliqué d'avoir certains prêts parce que c'est des prêts de collectionneurs.
Mm-hmm.
Mais donc il y a beaucoup de personnes qui ont collaboré sur des expositions.
Ouais. Ouais. Alors c'est dans le cadre de la saison 2025 du Brésil en France. Avant c'était la Lituanie.
Ouais. Hein,
donc vous voyagez, mais vous voyagez beaucoup, hein, de toute façon. Vous n'êtes pas en retraite, hein, vous allez d'exposition en exposition avec toujours ce dynamisme. Alors, vous connaissez bien le Brésil, et ces deux artistes, vous les avez... Même Evans Machado, vous le connaissez, vous l'avez rencontré, ou il était décédé avant?
Non, je ne connais pas Evans, je n'ai pas connu Evans Machado.
Il est décédé en 2015.
Oui, 2015. Non, je n'avais pas rencontré. C'est un artiste que j'ai découvert récemment. Je connais bien les artistes qui ont travaillé dans les années 70, mais pas lui. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup au Brésil il y a un long moment. D'ailleurs, il y a 20 ans, il y avait la saison du Brésil en France culturelle et j'étais le commissaire pour le Festival d'automne à Paris et j'avais fait la grande expo d'Ernesto Neto au Panthéon.
Mm-hmm.
Et Ernesto Neto, qui est un des grands artistes brésiliens actuels, il va être présenté cette année au Grand Palais, en fait.
D'accord.
Donc vous... je connais bien, en revanche, Lucas Arruda, que j'ai rencontré plusieurs fois.
Alors, il est jeune, hein, il est né en 83, et c'est des expositions monographiques, là, sur ces deux artistes contemporains, et vous êtes spécialiste un peu des expositions monographiques. Ça s'inscrit un peu dans un grand thème, non ?
Oui, il y a des liens, en fait. Je pense que quand on est directeur d'un lieu, il y a des liens qui sont conscients et inconscients. Et c'est vrai que cet artiste-là, on pourrait voir des liens avec Hugo Rondinone, par exemple, quelque part. Et c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec les artistes, donc j'aime bien dialoguer avec eux dans des expos monographiques. Et c'est quand j'ai fait au Carré d'Art des expositions collectives, j'ai souvent travaillé avec des historiens d'art, qui avaient un sujet intéressant et sur lequel on pouvait donner forme par une exposition. Mais je redoute souvent les expositions thématiques, qui sont des instrumentalisations des œuvres. Et j'aime bien travailler en revanche avec des historiens d'art. Et pour ma part, j'adore dialoguer avec les artistes, d'être dans le projet d'accrochage ou de production. Donc c'est vrai que j'ai favorisé les expositions monographique ici.
Alors, l'exposition de Lucas Arruda s'appelle Deserto Modelo. Mm. Et on le voit tout de suite, le désert, c'est son lieu privilégié, en fait. C'est dans l'exposition, il n'y a que des œuvres autour du désert ou il y a autre chose?
Non, c'est-à-dire que Deserto Modelo, ça vient d'un poème, en fait. Donc c'est comme Deserto Modelo, c'est comme un archétype du désert, comme si on veut dire. Donc c'est un travail presque conceptuel. Ce qui l'intéresse dans les termes du désert, c'est que quand on est dans le désert, il n'y a rien à voir, en gros, si ce n'est la lumière. Donc c'est un artiste qui fait des paysages, essentiellement des paysages, et qui travaillent sur la lumière, qui ne sont jamais des paysages réalistes, c'est toujours des paysages qui viennent de sa mémoire ou de l'histoire de l'art, de livres, de choses qu'il a vues dans des musées, mais il peint pas sur le motif. En ce moment, il est présenté au musée d'Orsay. Il a une exposition également au musée d'Orsay en relais dans la salle des impressionnistes. Et on sait que les impressionnistes allaient peindre sur le motif. Lui, il va pas du tout. Donc c'est un travail plus... c'est à la fois très sensible et très matériel, mais conceptuel aussi.
Et pourquoi le mettre dans la salle des impressionnistes ? Pour faire une sorte de...
Parce que c'est un travail sur la lumière, en fait. Aussi, comme vous allez voir dans l'exposition, il y a à la fois des peintures qui sont des petits formats, il y a des peintures qui sont un peu plus grandes, qu'il appelle des monochromes, où il y a juste une ligne d'horizon, mais qu'on voit presque pas. Mais il y a aussi une installation lumineuse, qui est faite de projections de lumière et de peinture, où on n'arrive pas à comprendre ce que c'est. C'est pas sur toile, c'est directement sur le mur. Et il y a une vidéo à la fin, une vidéo noir et blanc, qui est aussi, le noir et blanc, c'est la lumière aussi. Une vidéo, un film, c'est de la lumière. Donc c'est un travail à la fois sur le paysage, mais c'est un travail avant tout sur la lumière, en fait, l'immatérialité des choses, en fait.
Alors, je suis un peu gênée, parce qu'en général, quand vous me parliez des expositions, je les avais vues. Et puis là, c'est une nouveauté, puisque je ne les ai pas encore vues, puisqu'elles ne sont pas encore ouvertes au public. Mais j'avais une question sur le désert. Oui, vous me le montrez là sur le catalogue. En effet, ça fait quand même très impressionniste. On pourrait penser à Turner aussi. On pourrait penser... Non,
la différence, en fait, c'est que c'est des couleurs très... C'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir en même temps. C'est des couleurs très brésiliennes, en fait, très de l'hémisphère sud. Donc c'est vrai que c'est des peintures qu'on pourrait penser d'un peintre du 19e siècle.
Ça pourrait être un détail, en fait, d'un grand tableau, et ça pourrait être...
Mais c'est des couleurs très subtiles, très... Et là, il y a des tableaux qui sont presque à la limite du visible, en fait. Et donc, ça, sa référence, c'est vrai qu'on parle beaucoup des impressionnistes à cause de la lumière. Moi, j'aime bien aussi faire la référence Morandi, en fait. Parce que Morandi, vous voyez les natures mortes, c'est toujours la même chose. Et par exemple, Deserto Modelo, c'est un titre qu'il donne tout le temps à ses expositions.
Ah oui, d'accord.
C'est toujours le même titre. C'est comme s'il allait explorer encore quelque chose qu'il n'arrivera pas à atteindre, en fait, quelque part.
Oui, parce que j'ai vu dans la liste, là, il a été exposé dans les plus grands centres. Mais moi, la question que je me pose, c'est... cette relation au désert, faut-il qu'il soit dans le désert pour peindre ? Il aime le désert, ou c'est un désert, c'est un concept en
Non, fait, je veux dire, c'est un concept, parce qu'il n'y a pas de désert dans au Brésil. Et d'ailleurs, il ne fait pas que des déserts, il fait aussi des forêts vierges. Alors le désert, c'est-à-dire quand vous êtes devant les peintures, où c'est des paysages comme ça, qui n'est pas des Deserto Modelo, c'est des choses presque... qui vont presque l'abstraction. Et en fait, il y a d'autres petites peintures qui sont souvent carrées, qui sont des peintures de forêt vierge, une forêt vierge très dense, comme il y a au Brésil, dans lequel on ne pourrait pas rentrer, en fait, comme un mur.
Ah ouais.
Et ça, c'est une autre pratique de son, son travail.
C'est surprenant, oui.
C'est des tout petits formats. Et donc ça, les histoires aussi de paysages, c'est vraiment à prendre par rapport à l'histoire de la peinture au Brésil, parce que vous savez qu'au XVIIIe siècle, beaucoup de peintres européens, avec les colonisations, sont partis pour faire des études scientifiques, et il y a beaucoup de tableaux dans les musées en France, dans le musée des Beaux-Arts, ou même au Brésil, de peintres européens qui ont essayé d'identifier toutes les espèces, des choses comme ça. Et lui, en fait, il est opposé à ça. Parce que c'est un travail où il ne travaille pas d'après nature. Il travaille par rapport à quelque chose de sensible qui vient de la mémoire et qui vient de sa mémoire et des références d'histoire de l'art qu'il peut avoir. Donc il se positionne forcément à ça, parce que dans les musées brésiliens de Beaux-Arts, cette peinture du XVIIIe siècle français, entre autres français et anglais, elle est très présente, en fait.
Mais en quoi vous trouvez, vous qui connaissez bien le Brésil et puis ses toiles, ça me surprend quand vous dites que c'est très brésilien comme couleur.
Parce qu'il y a des roses, il n'y aurait pas ça dans une peinture européenne, il y a des roses. Il y a des ocres profonds, des marrons, des couleurs qui ne sont pas communes, en fait, qu'on ne verrait pas dans la peinture forcément occidentale.
En fait, j'ai l'impression que c'est aussi une méditation. Chaque tableau est une méditation.
Oui. En fait, pour lui, le tableau est un support pour aller vers autre chose.
Oui, il ne sait pas quoi.
C'est quelque chose d'intérieur, un peu comme Morandi, encore une fois, c'est quelque chose d'intérieur. Et c'est vraiment C'est le support, en fait. Et en fait, ils ont une force, ils sont tout petits, mais on les a, il y a des salles où on en a mis 15 sur chaque mur parce qu'ils sont extrêmement denses. Et en fait, il fait des couches, c'est très long. Il utilise des fois la cire d'abeille aussi pour donner une densité. Donc, il a une pratique très... Il y a une restauratrice qui est venue pour faire les constats d'œuvre et qui a dit que c'était une technique incroyable, en fait. Et ce qui m'a intéressé chez lui... C'est que c'est un vrai peintre, en fait, aussi.
Ouais.
Parce qu'on a beaucoup de peintres aujourd'hui qui sont très mauvais. Et c'est un vrai peintre, c'est pas un illustrateur. C'est quelqu'un qui travaille la matière de la peinture.
On voit d'ailleurs la photo de... On voit, il a un tablier, ouais. Il est vraiment dans la pratique, dans le manuel.
Et là, les peintures qu'il a faites directement sur le mur, qui sont des couches de lumière abstraite, c'est lui qui les a peints, c'est pas ses assistants. Il a des assistants, mais c'est lui qui le peint.
Donc il sera là au vernissage.
Ah, il est là depuis 10 jours déjà.
Il est là depuis 10 jours, il parle bien français ?
Non.
Non, pas du
il
tout.
Il parle que brésilien.
Que brésilien.
Et anglais.
Et anglais. Et comment est-il en tant qu'homme, en tant que...
Il est très intense, en fait. Parce que moi, je me souviens, il a fait une exposition dans sa galerie à Paris il y a 3 ans. Et la galerie avait organisé un déjeuner pour qu'on déjeune ensemble, parce qu'il pensait qu'on allait s'entendre. Et donc, j'ai passé un super moment avec lui et j'ai trouvé qu'il était extrêmement intense, ce que je n'avais pas ressenti forcément dans ses peintures.
Ouais.
Et tout ça a déclenché par la suite des discussions. Non, il est très sympathique. C'est très brésilien. C'est un peu comme les Libanais que j'ai invités ici. C'est la famille, parce qu'ils viennent tous avec leur mère, leur père, leur copain, leur... Je sais pas combien de Brésiliens, là, à Nîmes, hein, qui sont là.
C'est un côté très... Enfin, œuvre collective, quelque part.
Ils se connaissent tous. En fait, parce que São Paulo, c'est beaucoup plus grand que Paris, mais tout le monde se connaît.
Tout le monde
c'est assez curieux.
Se connaît. Et comme vous dites, ça s'appelle toujours Deserto Modelo, et qu'il a fait déjà énormément d'expositions. Hein, je vois la liste.
Il n'a jamais eu une grande exposition comme à Nîmes, grande exposition.
Mais vous êtes spécialiste de faire
c'est sa première grande expo, mais il a été exposé, il a eu une salle chez Pinault. Pinault a une trentaine d'œuvres acheté, une trentaine d'œuvres de lui.
Ouais.
Et puis il a été à la Fondation Beyeler, dans des expos de groupe plutôt.
En revanche,
il a eu des expos, je crois, à Cassel. Hein, il a eu une expo il y a un petit moment au musée de Cassel. Et il a eu une expo au Brésil aussi. Mais c'est un artiste très connu, il est très très cher. La cote est
j'allais vous poser la question.
C'est inabordable, c'est-à-dire que c'est que des grands collectionneurs
qui peuvent
acheter ses peintures. Je ne vais pas donner le prix, mais c'est très cher.
C'est énorme. Et ça lui monte un peu à la tête ou continue dans son travail?
Non, je pense qu'il continue son travail. Ça doit être complexe en même temps parce qu'il est dans une galerie, sa galerie qui est à Paris, mais qui est une galerie américaine, c'est David Zwerner. C'est la plus grosse galerie américaine. C'est des jeunes, il y a une grosse galerie comme ça, c'est puissant.
Mais il va évoluer parce que sa première grande exposition consacrée qu'à lui. Il le vit.
Il a 42 ans, c'est un enjeu pour lui.
Combien d'œuvres là pendant l'exposition?
Il doit y avoir une trentaine de peintures en fait, et plus les installations. Oui. Il y a une trentaine de peintures.
Et certaines qui sont peintes directement sur le mur.
Et il y a une installation qui est une salle entière, plus une vidéo qui est une salle entière, plus une autre installation qui est une autre salle de diapositives.
Ouais. Alors, ce qui est peint sur le mur, vous en ferez quoi? Vous découperez le mur?
Non, c'est vraiment des œuvres éphémères, en fait. Protocoles.
Ouais.
Des protocoles. Et là, on voit le travail du protocole, le travail conceptuel aussi.
Ouais.
Mais je ne sais pas comment il va évoluer. Je pense qu'il va continuer les paysages parce qu'il est...
Il n'a jamais rien fait d'autre que des paysages.
Et donc, après, je ne sais pas ce qu'il montre.
Bien
plus
sûr.
De moi, c'est des paysages. Avant, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais un peu comme aussi, je le compare par la force des tableaux. Je le compare un peu, ça n'a rien à voir avec cet artiste qu'on a dans la collection, qui est en ce moment au Musée des Beaux-Arts, Etel Adnan, qui fait aussi des tout petits tableaux,
mais qui
sont extrêmement denses et forts.
Ouais.
Et Etel Adnan, elle a créé des poésies, mais elle a fait que des paysages aussi.
Mais 42 ans, il a le temps d'évoluer ou
de
ne pas évoluer. En fait, on entre un peu dans son cerveau, on entre dans sa sensibilité, dans ses ressentis, dans ses...
Oui, et puis c'est une expo de musée, donc il a la liberté de faire ce qu'il veut. Je lui ai dit, si on veut mettre qu'une peinture par mur, on peut, ce qui n'est pas possible dans une galerie, parce que les galeries sont là pour vendre.
Donc
ils
n'en
vendent pas par mur. Et donc là, ça va être la première fois que les collectionneurs vont voir... Parce que même la salle chez Pinault, je me souviens, il y avait beaucoup de peinture, ouais. En fait.
Mais c'est assez caractéristique de ce que vous avez fait pendant les années.
Oui, oui. Moi, je donne la liberté aux artistes, en fait.
Donc, et moi, j'aime beaucoup quand il n'y a qu'une œuvre. Je trouve que ça mobilise, en fait, notre regard. Hein. C'est,
bah, si l'œuvre est bonne, ça marche.
Si l'œuvre
est bonne, ça marche pas.
Ça marche pas. Mais
là, je peux vous dire que l'expo est belle. On a beaucoup travaillé sur la lumière. La lumière est tellement importante qu'il a quelqu'un dans son équipe qui travaille juste la lumière. Qui est venu du Brésil pour travailler les éclairages.
Ah, oui.
Et hier soir, on a fait l'éclairage jusqu'à très tard dans la soirée pour faire l'éclairage de 18h30.
Ah oui, d'accord.
Quand il y aura le moment du vernissage.
Et oui, parce que la lumière, c'est la spécificité du carré d'art, hein, oui. Là où on voit la lumière change en permanence. Donc, une belle rencontre.
Ça va être une découverte pour beaucoup de monde. Ça va faire venir beaucoup de monde parce que là, il y a... Déjà, je crois que pour le vernissage, c'est les galeries qui invitent, je veux dire, mais il y a un dîner pour 100 personnes, donc il y a plein de collectionneurs qui viennent et tout ça. C'est un artiste très... Ici, Annie, bien sûr, on ne le connaît pas, mais c'est un artiste très connu.
Oui, mais c'est ce que vous avez voulu faire. Il y a eu beaucoup de premières expositions que vous avez...
Mais qui sont déjà des artistes un peu reconnus internationalement.
Ouais. Alors, ils connaissaient Evans Machado, je suppose, ou vous savez pas ?
Je ne pense pas qu'ils le connaissent personnellement, mais c'est un artiste très connu au Brésil aussi, qui est un artiste qui est décédé, donc qui est une génération qui a commencé à travailler dans les années 70, qui veut dire au moment de la dictature, donc avant tout un travail extrêmement politique. Donc les premières œuvres qu'on montre sont des œuvres qui sont des vidéos ou des photographies de performances qu'il a fait, qui sont assez violentes en fait. Tous ces artistes travaillaient sur la violence,
sur la dictature,
c'était violent à l'époque. Et donc, il n'y avait pas de groupe constitué, mais il y avait beaucoup d'artistes qui travaillaient dans ce sens.
Donc, ma question, c'était, il ne le connaissait
pas,
mais il a vu l'installation, là, à
l'Académie. Mais il connaissait le travail.
Il connaissait le travail,
parce qu'au Brésil, c'est très connu. Hein.
Et là, dans la Project Room, comment a-t-il réagi, Lucas?
Il m'a dit félicitations d'avoir choisi, parce que je suis tellement content d'être avec cet artiste. Il dit, on a un travail très différent, mais c'est génial. Parce qu'il y a très peu l'occasion, même au Brésil, parce que j'ai été en Madrid récemment pendant la foire d'art contemporain, et les collectionneurs brésiliens me disaient, c'est vrai qu'on voit très peu, même au Brésil, donc c'est super de pouvoir le voir.
Alors, on va reparler, enfin, vous allez reparler un peu plus longuement d'Evans Machado, mais je vous propose qu'on fasse une petite pause de musique brésilienne. Nos auditeurs vont la découvrir, mais chanter.
Se você disser que eu desafio o amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Jean-Marc Prévost, commissaire de l'exposition donc, qui se déroule, je recherche la date, du 30 avril au 5 octobre. Donc dans la première partie de l'émission, vous avez parlé de Lucas Arruda, Deserto Modelo. Vous avez déjà introduit Evans Machado qui est donc dans la Project Room. Alors Evans Machado, comment vous le présentez? C'est plus un sculpteur, c'est plus un...
Il y a deux parties dans sa vie, je pense, où il a fait au début justement par rapport à la violence politique de la dictature des actions en fait. Et dans la deuxième partie de sa vie, il a dans les années 80, il a commencé à faire des sculptures qu'il a continué par la suite, mais qui sont des sculptures qu'il travaille avec des matériaux de construction, souvent.
Oui, ça fait très... C'est ce que vous avez mis sur l'affiche.
C'est du béton, du charbon,
du fil de fer,
des morceaux de briques cassées. Mmh. Donc c'est à la fois l'idée de construire, mais aussi de ruines, en fait. Mmh. Et c'est souvent violent. C'est quelquefois aussi avec des dimensions... C'est très physique. Quand on accrochait les œuvres, qui sont pour certaines très lourdes parce que c'est du béton... Mmh. Je me disais, c'est comme des corps en fait, c'est très organique, c'est à la fois très comme des constructions, mais ça peut être très très organique, et ça fait partie en fait de toute sa démarche sculpturale. Et donc il y a aussi là, souvent de la violence. Par exemple, il y a une pièce qui est faite avec du métal et en haut c'est du béton, et qui vient à la hauteur de la figure, mais c'est des tessons de bouteilles en fait, comme on a sur les murs, hein, parce qu'au Brésil il y a souvent ça sur les murs aussi, pour que les gens ne sautent pas.
Et c'est très 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 violent.
C'est très violent, et donc dans sa sculpture il a continué la violence qu'il y avait dans ses performances en fait.
C'était vraiment l'objet un peu de son art. Et il les réalise lui-même ou il les réalisait lui-même ou
il les réalisait lui-même. Il avait certainement quelqu'un qui les... Parce que c'est lourd, c'est des grosses pièces, mais on sent qu'il les réalisait lui-même
et
qu'il mettait de main à la pâte dans ce genre de choses. Donc
Et là, c'est pareil, j'ai pas encore vu l'exposition, donc je suis un peu démunie dans mes questions. Combien d'œuvres y a-t-il? Plus que de la sculpture ou aussi non?
Il doit y avoir une dizaine de photographies, il y a trois vidéos, et il doit y avoir une quinzaine de dix sculptures aussi. Ouais. C'est dans le Project Room. Donc ça donne quand même, on a travaillé parce que...
Là, vous avez mis beaucoup de choses, c'est dense.
Oui, on a travaillé avec l'estate, avec les héritiers, en fait, ils vont venir d'ailleurs. Et donc on a fait une sélection pour donner une vision un peu de l'ensemble de son travail. Donc je pense que ça donnera au public une idée de ce que l'artiste a voulu développer, et au-delà de ça, de ce qui pouvait se passer au Brésil dans ces années-là. Il y avait beaucoup d'artistes très, très importants. Moi, j'ai choisi Evans Machado parce qu'il est moins connu et moins visible. Et que un des derniers voyages que j'ai fait là-bas, ça m'a beaucoup marqué, ce travail. Mais,
parce que lui, nous, on ne le connaît pas, mais au Brésil,
il est très, très connu, je ne dirais pas, mais par les artistes et les gens qui connaissent l'art. Oui, c'est une figure tutélaire et qui a influencé pas mal d'artistes qui ont commencé à travailler à la fin des années 90 dans le domaine de la sculpture. dont une artiste que je connais bien qui s'appelle Adriana Alvarejo. Il y a des œuvres qui ressemblent vraiment à Machado. Donc il a influencé quand même beaucoup de monde. Beaucoup de monde l'a regardé, en fait.
Ben, merci beaucoup de nous faire découvrir, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent ni Lucas, ni Evans. Donc on va découvrir. Et dans ce même cadre, en association, il y a, vous voulez parler, mais on verra Barbara Boucher, qui est la conservatrice du Musée des Beaux-Arts, il y a un lien avec le Musée des Beaux-Arts en même temps.
Il y a un lien avec le Musée des Beaux-Arts parce que j'avais aussi vu cette artiste importante qui est de la génération de Lucas Arruda, Marina Ringgold, qui est une artiste peintre de la même génération, qui fait des œuvres très différentes de celles de Lucas, même des grandes peintures, qui sont des grandes peintures de paysages. Et donc Barbara a accepté, la directrice du Musée des Beaux-Arts a accepté de la présenter en dialogue avec certaines œuvres de la collection.
De la collection.
Donc là, il y a une dizaine de peintures, je crois. Et c'est la première fois que aussi elle sera visible en France. Les amis de Beaubourg ont acheté récemment une grande peinture pour les collections de Beaubourg aussi. Donc c'est une artiste aussi assez visible qui est dans le marché de l'art, pas comme Lucas Arruda, mais qui est aussi qui est très collectionné aussi.
Et là c'est pareil, ça commence exactement à la même date.
On va faire le vernissage le même jour, ça va être très très amusant. Il y a tout le Brésil qui débarque.
Donc voilà, parce que là c'est les journées romaines aujourd'hui, mais là
ce sera
non pas la journée brésilienne puisque
avec de la musique brésilienne pour aller d'un musée à l'autre, je crois.
Bah, les musées de Nîmes sont très dynamiques. Il y a en parallèle toutes les expositions sur les textiles. Vous avez eu le temps de les voir, vous allez le temps de le voir. C'est très dynamique.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la saison brésilienne est vraiment intéressante cette année. Et vous pouvez aller sur le site de l'Institut français.
Oui.
Et sur le site de l'Institut français, vous avez toute la programmation. Parce que la saison brésilienne, c'est pas uniquement les arts visuels, c'est aussi la danse, la musique, le théâtre. Ici, il n'y a pas autour du théâtre et tout ça. Mais vous avez des choses extraordinaires à Paris, mais partout en région. Là, le président de la saison brésilienne m'a dit qu'il était à Lille, où ils font des choses. Il va y avoir un grand bal brésilien devant le Grand Palais à Paris. Enfin, il y a des événements aussi comme ça, et qui vont durer jusqu'en septembre. Et nous, on fait donc partie de ce projet.
De ce projet. Donc, on sent cette passion pour Paris. Hein. Vous avez été là pendant des années, mais on sent que Paris... Vous aimez Paris, vous aimez ce dynamisme, mais... Vous l'avez aussi projeté sur Nîmes, hein, puisque on ne va pas rappeler toutes les expositions que vous avez encadrées, mais on a découvert beaucoup de choses et vous allez continuer dans vos voyages personnels. Toujours en train de... Le Abu Dhabi, Dubaï, le Brésil...
Je veux continuer à faire travailler avec les artistes. Donc c'est vrai que j'ai des propositions d'exposition en tant que commissaire indépendant. Je suis conseiller aussi d'une fondation privée... De musée d'art contemporain en Arabie Saoudite. Donc c'est vrai que je vais pas m'arrêter comme
et
ça.
Vous n'avez pas le travail administratif, si vous m'avez
Je n'ai plus à gérer.
Et c'est très confortable.
C'est pas mal. C'est autre chose. Non, j'ai bien beaucoup aimé m'occuper des musées. Je suis quelqu'un de musée. J'ai travaillé toute ma carrière dans les musées. Et c'est là, vrai que je trouve que les musées sont... Les musées ont vraiment un rôle à jouer, en fait, culturellement, pour le public. Ce carré d'art, il a formé tellement de personnes que c'est... Même si on travaille pour très peu de gens, c'est vrai que c'est quand même extrêmement important. Et vu le monde dans lequel on est, je pense que l'art peut nous donner beaucoup de... Peut-être de l'espoir, ou tout du moins de penser... d'avoir un esprit ouvert, en fait, sur les autres et sur le monde.
On en a besoin.
Et c'est bien d'avoir le Brésil, parce que c'est un autre monde, le Brésil, quand même.
Merci beaucoup, Jean-Marc Prévost, et bonne continuation. Et
merci.
Peut-être vous revoir si vous repassez par Nîmes. Merci beaucoup. Merci.